Alors, mairie de Tille, séance du conseil municipal en petite salle polyvalente le mercredi 28 août 2024 à 20h35. Enregistrement intégral et sans pause. Je vais faire donc l'appel. Thomas Valérie présente. Vincent Traclet.
Présent.
Elisabeth Bonomo.
Présent.
Jean-Marc Viennot.
Présent.
Delphine Viennot.
Présent.
Angélique Pujat.
Présente.
Michel Arger, donc excusé. Catherine Ferron, excusé, donne pouvoir à Elisabeth Bonomo. Christian Julien, excusé, donne pouvoir à Valérie Pomaz. Victor Passarella est excusé. Patrice Auray, excusé, et donne pouvoir à Jean-Marc Viennot. Estelle Brumet est excusée. Damaris Caropi.
Présente.
Lionel Gauthier est excusé. Et Véronique Dost.
Présente.
Merci. Il nous faut approuver le compte-rendu du conseil municipal du 30 mai 2024. Est-ce qu'il y a des remarques à faire sur ce compte-rendu? Pas de remarques particulières? Alors, à votre approbation, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Approuvées. Je vous remercie. Eh bien, il nous faut désigner un ou une secrétaire de séance avec un immense suspense. Et un grand roulement de tambour. Merci Delphine d'être notre secrétaire de séance. Première délibération. Merci. Excel Composite, société qui fabrique, je crois, de la fibre de carbone, notamment destinée à l'aéronautique. Et cette société a présenté un dossier de réexamen de IED. IED, c'est l'installation classée pour la protection de l'environnement. Parce que je pense, enfin, dans leur dossier, de ce qu'on lit, pour pouvoir fabriquer cette fibre de carbone, il faut des solvants qui sont mélangés, etc. Et donc pour fabriquer ces solvants, donc ce sont des considérés comme des sociétés qui sont des installations classées par rapport à ces solvants qui peuvent se qui peuvent être dangereux. Et donc il y a une demande de dérogation pour obtenir un délai supplémentaire de 1 an pour se mettre en conformité à la fin 2025, parce que dans le dossier on voit que certains niveaux d'émission de certaines molécules ont relevé des taux un petit peu supérieurs à ce qu'il est possible d'émettre. Et donc, conformément aux dispositions des articles, le dossier devait faire l'objet d'une mise à disposition du public du 15 juillet au 23 août, inclus en mairie de Dagneux. Le registre d'enquête destiné à recevoir les observations accompagnées du dossier et la demande de dérogation pour obtenir de l'aide supplémentaire a été ouvert durant cette période à la mairie de Dagneux. Notre commune étant comprise dans le rayon d'affichage de cette mise à disposition, nous avons donc apposé les affiches en mairie conformément à la réglementation. Cet affichage devait avoir lieu 15 jours au moins avant le début de l'enquête et le déroulement de celle-ci, c'est-à-dire donc du 28 juin au 23 août. Et notre conseil municipal, étant donné qu'on est dans le périmètre finalement de cette usine, doit formuler un avis sur le dossier, donc à savoir d'émettre un avis sur la demande de dérogation formulée par la société Excel Composite pour pouvoir avoir un délai supplémentaire de 1 an, donc jusqu'en décembre 2025, pour se mettre en conformité par rapport à la législation en vigueur. Voilà, si je peux résumer le dossier qui était un peu technique.
Je suppose que si c'est en limite, mais ça ne doit pas être extraordinairement, ça ne doit pas dépasser beaucoup, parce que comment ils ne nous demanderaient pas notre avis, ferme-moi une usine.
Les usines qui doivent fournir des relevés à l'ARS ou aux organismes chargés de contrôle, et que on le voit dans le document, il y a certaines molécules qui dépassaient de quelques... Alors, je ne sais pas si c'est des nanogrammes, des milligrammes, ou enfin, les tolérances. Mais évidemment, je suppose que s'il y avait un caractère de dangerosité, on ne poserait pas la question et on aurait fermé le site. Hein, là, ce n'est pas pour ça, c'est pour... Alors, ils doivent se mettre en conformité. Et donc, cette société demande un délai supplémentaire de 1 an pour pouvoir effectuer le...
Et il y a des travaux qui prennent 1 an pour les mettre en place, pour les faire. C'est pour ça qu'ils demandent aussi le délai.
Aussi.
Dans le dossier, c'est ce qu'ils expliquent.
C'est ça. Oui, en fait...
Il leur faut au moins 1 an pour mettre certains appareils. Il faut qu'ils aspirent des poussières aussi.
C'est ça.
Il n'y a pas que les molécules, il y a la poussière. Quand ils poncent
les fibres.
La fibre de carbone, il faut aspirer et tout. Il leur faut au moins 1 an pour se mettre aux normes.
Voilà, je pense que c'est pas un, ça représente pas un danger pour quiconque, mais qu'il y a des normes à respecter qui sont certainement très drastiques et qu'ils ont besoin certainement pour effectuer ces travaux et être sûr des résultats de ce délai supplémentaire.
Donc, voilà. Ils demandent notre avis.
Nous, c'est un avis. Ah non, on n'est pas ou pour ou contre Excel.
Favorable à la dérogation ou défavorable.
Voilà. Ou on est favorable à la demande de dérogation ou défavorable. C'est à nous d'en décider. Voilà. Comment ?
Favorable si c'est pour mieux faire.
Oui, c'est le principe. Hein.
C'est le principe. C'est un des leaders mondiaux de la fibre de carbone hein, au niveau de l'aéronautique. Hein. Excel.
Ah oui, et surtout, enfin, dans le dossier, les petites molécules, c'était vraiment des taux d'émission qui ne semblaient pas. Enfin, moi, je sais pas, j'y connais rien. Hein, mais
oui, justement, ils demandent notre avis sur un truc qu'on peut pas. C'est un avis de spécialiste. Ça.
Alors, ça, nous, on juge pas les émissions. On juge juste la demande de dérogation de 1 an. On donne un avis sur la. Si on accorde. Si on donne un avis favorable à leur demande de dérogation de 1 an. Nous, c'est la seule chose sur laquelle on doit se prononcer.
S'ils demandent un délai, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire dans les délais impartis. Voilà. Ouais, de toute façon, on n'a pas...
En gros, c'est ça. Ils disent pas qu'ils, dans le dossier, ils disent pas qu'ils vont pas faire les travaux.
Ouais.
Ils disent qu'il leur faut du temps pour le faire.
OK. D'autres questions, remarques ? Procéder au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Les abstentions ?
Moi, j'ai une remarque.
Non, alors, tu pourras poser toutes les questions que tu veux, mais après le conseil municipal. C'est pas possible d'intervenir pendant. C'est la règle. Hein, voilà. Mais il n'y a pas de souci après. Donc, je reprends. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Eh bien, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération numéro 2 concerne... commission d'appel d'offres. La commission d'appel d'offres, contrairement à toutes les autres commissions que l'on a dans la commune, c'est pas une commission auquel on fait appel souvent, hein, parce que c'est généralement pour des marchés publics et les marchés publics sur la commune de Tille, c'est quand même quelque chose qu'on fait pas beaucoup. Et cette commission d'appel d'offres, eh bien en fait, suite à la démission de Monsieur Rouvert qui en faisait partie, eh bien n'a pas été revue. Et donc dans le cadre de la construction donc du bâtiment multimodal et puis de la rénovation donc de l'école, là les sommes vont être plus importantes et donc cette commission va être amenée à se réunir plusieurs fois. Donc il convient de mettre à jour la commission le code général des collectivités prévoit que dans les communes de moins de 3500 habitants, cette commission doit comporter en plus du maire, président, 3 membres titulaires et 3 membres suppléants élus au sein du conseil. Donc c'est pourquoi je vous proposais comme membre titulaire, si vous l'acceptez, donc Vincent Traclet, Damaris Caropi, Catherine Ferron, et en membre suppléant, Elisabeth Bonomo, Patrice Auret et Michel Arger. Est-ce que vous avez des questions ? Si vous n'avez pas de questions, nous allons procéder au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Adopté, je vous remercie. Et donc, justement, nous allons y venir. Projet bâtiment multimodal et rénovation de l'école. Alors, on va peut-être faire un petit rappel. En février 2024, on a validé la signature d'une convention avec l'Agence départementale d'ingénierie de l'Ain pour nous accompagner concernant ce projet de bâtiment multimodal. Alors, on rappelle que cette convention, elle prévoit l'étude de programmation, l'assistance à la passation de prestations intellectuelles. Alors, les prestations intellectuelles, on va en parler après, c'est les relevés topographiques, la détection des réseaux enterrés, les diagnostics amiantés plomb, l'étude géotechnique et le diagnostic acoustique initial. La procédure de concours restreint sur esquisse, l'appui technique en phase conception, l'appui administratif, suivi de la maîtrise d'œuvre, l'assistance en phase de conception, de réalisation, l'assistance à la passation des marchés de travaux, l'assistance à la maîtrise d'œuvre et le suivi de chantier pour un temps estimé de 71 jours et 31 950 euros. Ça, c'est ce qu'on avait voté le 15 février. Depuis, il y a eu plusieurs réunions de travail avec l'agence d'ingénierie. On a avancé, bien évidemment, sur le dossier. Ce qui a permis d'établir un planning prévisionnel des travaux qu'on peut peut-être regarder. Je rappelle, un bâtiment multimodal, c'est la possibilité de construire un bâtiment dans la continuité de l'école et puis également la rénovation de l'école et notamment du système de chauffage avec la création d'une chaufferie, etc. Alors, est-ce qu'on peut grossir un petit peu? Parce que là, on ne voit pas grand-chose. Donc si on reprend un petit peu donc, ce planning, si on approuve cette délibération ce soir, eh bien continuerons, et c'est pourquoi on a fait ce conseil municipal ce soir, parce que l'envoi de l'avis de concours au bulletin officiel et dans tous les journaux officiels doit être fait le 3 septembre. Passer ce type de marché et lancer ce type de concours, ça demande vraiment de suivre une réglementation très très précise. Et donc il y a des dates impératives et des nombres de semaines à respecter qui sont vraiment très... bien très, très normé. Et donc, si on veut respecter quand même un délai, eh bien, c'est pourquoi ce conseil municipal se réunissait aussi ce soir. Voilà, donc vous avez des dates importantes comme la réunion de la commission technique de préparation du jury de candidature. Donc ça, c'est pour le concours d'architectes. Alors, c'est pourquoi aussi on a refait la CAO ce soir, parce que ceux qui vont faire partie, tu m'arrêtes Sandra si je me trompe, du jury ne peuvent pas être dans la commission d'appel d'offres.
Dans la commission technique.
Dans la commission technique.
Et inversement.
Donc voilà, c'est très, très normé et il ne faut pas faire d'erreur. C'est pourquoi aussi on a fait appel à l'agence d'ingénierie hein, pour nous aider dans tout ça. Avec, si on va tout en bas, date prévisionnelle des études, y compris attribution des marchés de travaux, avec un démarrage de travaux en avril 2026 et 20 mois de durée prévisionnelle des travaux avec une livraison du bâtiment en janvier 2028. L'objectif étant de construire, de rénover déjà l'école, certaines choses qui n'ont pas été faites malgré déjà tout ce qu'on a fait, mais il y a encore beaucoup de choses à faire dans l'école. Et également donc de construire ce bâtiment multimodal. Pendant qu'on construit ce bâtiment multimodal, bien évidemment, la salle des fêtes actuelle hein, reste pour justement accueillir toutes les associations dans son fonctionnement. Et bien évidemment, une fois le bâtiment multimodal ouvert, cette salle des fêtes qui ne peut pas être rénovée puisqu'elle est amiantée du sol au plafond en passant par les toitures, eh bien, sera démolie. Voilà un petit peu la phase de travaux et ce pourquoi nous sommes là ce soir. Donc, les premières consultations ont été lancées donc, par l'Agence départementale d'ingénierie et c'était donc l'assistance à la passation de prestations intellectuelles hein, que sont les relevés topographiques, détection des réseaux enterrés, diagnostic amianté plomb, études géotechniques et le diagnostic acoustique initial. Donc, chaque prestation, l'Agence a consulté 3 entreprises spécialisées. Le retour de ces entreprises est fixé au 17 septembre à midi. Nous sommes en copie des réponses faites par les entreprises, mais à l'issue, une synthèse sera faite par l'agence pour retenir, bien évidemment, l'entreprise spécifique dans sa partie. Donc, ce soir, il convient de valider le planning prévisionnel et le lancement de maîtrise d'œuvre pour trouver un architecte qui puisse être capable de construire ce bâtiment. Donc, les membres de la CAO seront membres du jury, accompagnés des représentants du CAUE, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, et de l'Association des architectes de l'Ain. Donc, ça, c'est la procédure hein, par elle-même, pour retenir l'architecte parmi les 3 sélectionnés par la commission technique, qui est donc différente. Et comme donc vu précédemment, les membres de la CAO, nous les renommons dans cette délibération. Et la commission technique, elle, sera composée donc de Jean-Marc Viennot, d'Angélique Pujat, de Céline Bendoula, qui est notre directeur périscolaire, et de Sandra Bélier, qui est notre secrétaire générale. Le projet de délibération, vous avez eu le PowerPoint de présentation et puis la note synthétique ont été joints à cette présente délibération. Donc ce soir, il est proposé d'approuver le programme de l'opération. Alors on va peut-être mettre le programme.
Un PowerPoint, vous voulez dire ?
Non, le programme du coût d'opération prévisionnelle. Bah, le montant, mais il y avait le détail.
C'était en dessous de ce que tu as fait là.
C'était juste au-dessus.
Oui, oui, mais...
Comment ?
C'était sur le précédent, il était
en dessous. Parce que là, tu avais la RACAP et en dessous.
Sur la délibération, tu vois. Non, mais c'est ça que vous voulez voir.
Non, ça c'est la, ça c'est ce qu'on avait passé avec l'agence d'ingénierie. Non, c'est dans le PowerPoint.
C'est le détail.
Oui.
Et c'est la page 17, non ? Voilà. Donc dans ce bilan prévisionnel donc, de l'opération, on retrouve le programme pour un coût d'opération prévisionnel de 3 973 918 € hors taxes. Donc là, c'est le coût total, toutes dépenses confondues. Total donc de la construction du bâtiment multimodal, de la rénovation de l'école qui inclut les études, les prestations annexes, les indemnités aux architectes non retenus. Et donc oui, c'est ça, la page 18 du PowerPoint, estimation financière. Donc là, il y a toutes les, y compris des, ça tient compte d'une révision de prix, ça tient compte de frais divers et de frais d'imprévus, et donc des enveloppes, comment on appelle ça ? On dit plus loin. Des primes, oui, qui sont données aux candidats qui ne sont pas retenus. Donc, tout est inclus dans cette somme. Donc, d'arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle des travaux à hauteur, donc c'est bien ce qui est représenté en haut, de 3 056 500 €. Donc là, c'est le coût qui comprend également le coût de la déconstruction de la salle des fêtes. Le bâtiment multimodal tout neuf, donc coût de déconstruction de la salle des fêtes, 52 200 €. Bâtiment multimodal neuf, 2 639 200 €. École périscolaire, rénovation thermique et extension cantine, 365 100 €. Les aménagements extérieurs d'hiver avec la boucle de chaleur que l'on souhaite créer, 507 200 €. Donc ça, ce sont les coûts des dépenses. Bien évidemment, ne sont pas inclus pour l'instant la phase des subventions qu'on on va aller chercher. On en a déjà obtenu de la région d'un peu plus de 215 000 euros. Donc ça, c'est la première subvention qu'on a obtenue de la région. Et puis maintenant, on va faire appel à l'État, au département, et puis à tous les services qui pourront bien nous permettre de minimiser cette somme pour pouvoir construire ce bâtiment et rénover l'école. Et surtout, par rapport à la boucle de chaleur, c'est aussi important de créer un système de chauffage qui soit pérenne. Hein. Je rappelle que dans cette salle des fêtes, il y a combien ? il y a deux ou trois chaudière ici.
Dans l'école ?
Non, ici, là.
Ici, il y en a qu'une.
Non, il y en a deux ? Non, il y en a qu'une.
Ici, il y en a qu'une.
Dans l'école,
il y a trois.
Dans l'école, il y en a trois.
Et puis, ici, il y en a deux.
Et à la mairie, il y en a deux. Voilà. Donc, c'est un peu... et il y en a souvent qui, malheureusement, tombent en panne. On en a remplacé,
en a remplacé une
malheureusement, cet été.
On n'aura pas le bâtiment avant 2028.
C'est ça. Donc, d'autoriser Madame le maire à lancer la maîtrise d'œuvre pour cette opération, bien en parler, décider la fixation, de fixer pardon, la composition du jury comme détaillé ci-avant, de décider d'allouer aux membres du jury représentant la qualification professionnelle exigée, que sont les représentants du CAUE et de l'Association des architectes de l'Ain, une indemnité de participation dont le montant sera librement négocié avec chaque juré, conformément aux usages. C'est un montant qui est non défini à ce jour et ne peut pas être demandé, mais généralement, ce sont les frais de déplacement qui sont réclamés par les personnes qui viennent pour participer au jury. Comment ?
C'est le défraiement.
Oui, c'est ça. D'autoriser Madame le maire à négocier le projet de marché de maîtrise d'œuvre sans publicité ni mise en concurrence en application de l'article, etc., du Code de la commande publique, après le choix d'un ou plusieurs lauréats à l'issue du concours, de fixer le montant de la prime donc, qui est affiché là, les deux candidats architectes non retenus pour les frais d'esquisse, donc de 14 100 euros hors taxes, donc soit 28 200 euros. Donc ça, c'est des montants qui sont calculés en fonction de la valeur des travaux effectués. Là aussi, c'est la règle et la procédure. D'autoriser Madame le maire à pouvoir déclarer sans suite la procédure pour tout motif d'intérêt général si le projet n'aboutit pas pour quelque raison que ce soit, si on n'a pas les financements, si on ne peut pas faire le bâtiment, eh bien on pourra le déclarer sans suite. Hein, c'est pas ce qu'on souhaite, mais bon, on ne sait jamais, il faut mieux se prémunir. Et d'autoriser que les dépenses résultant de cette opération soient imputées sur les crédits du compte 21-31. Donc ça, c'est un compte spécifique qui est en investissement, bien évidemment, et qui est intitulé donc construction d'un bâtiment public. Voilà. Est-ce que vous avez, je suppose, des questions ? Non, pas spécialement. Donc là, on ne peut pas, hein, nous, le schéma qu'on a dans notre tête, hein, il faut maintenant faire abstraction. Ce sera maintenant le travail des architectes de nous sortir quelque chose en fonction des mètres carrés, en fonction de ce qu'on veut, etc., etc. Nous, on a imaginé des choses dans notre tête, mais maintenant, c'est eux qui vont travailler et qui vont après réunir le jury qui va faire un tri. C'est ça, hein, Sandra ?
Non, la commission.
La commission technique, pardon. Je m'en confonds toujours les deux.
La commission technique va étudier toutes les demandes. Et elle en retient trois. Et après, le jury, ce sont les membres de la CAO qui choisissent, qui ont le dernier mot pour décider l'architecte. La commission technique en retient trois et le jury
Le jury voit tout. Donc choisissez bien.
Hein, non, le jury qui voit tout. La commission technique.
La commission technique.
Non, jury voit tout.
Voilà, la commission technique en retient trois. Et après, le jury, parmi les trois.
Dans l'étape, tous les architectes, enfin, tous les cabinets d'architectes qui vont se présenter, ils présentent un pré-projet, quelque chose, ou c'est simplement parce que voilà, je m'appelle.
Non, il y aura un cahier des charges.
Il y a un cahier des charges, mais malgré tout, ce sont souvent juste des esquisses. Parce que moi, la seule, ce que j'ai fait, la seule fois où je l'ai fait, c'est pour le cinéma. Et en fait, pour le cinéma, on avait, je ne sais plus combien de dossiers, c'était vraiment. On en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, ils n'amènent pas les plans. Hein. Ce sont déjà des choses qu'ils ont faites sur d'autres projets similaires. Donc là, par exemple, pour le cinéma, c'était d'autres cinémas qu'ils avaient fait dans d'autres endroits, etc. Et après, c'est des esquisses.
Oui, parce que moi, les bulles qu'il a fait, ils ont fait, ça ne va pas, moi.
Oui.
Il fait des bulles comme ça, et machin. Ça,
non, mais
ça,
c'est pas les architectes.
Non, mais si, c'était les architectes qui sont venus. Mmh. Et après, j'aimerais bien qu'on ait quand même une maîtrise du... Bien qu'ils ont peut-être des meilleures idées que les nôtres, mais quand même qu'on ait une maîtrise de ce qui va se passer. C'est pas
après,
le gars
on
qui...
va travailler ensemble.
Ah oui, parce que pour le mec qui vous prend, parce que le gars qui avait l'impression de dire, ben, t'as plus le Ryan Gosling.
Ah non, 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 quand même. Tiens, quand même. Je me rappelle pour le cinéma, après, il y a eu tout un travail aussi dans le détail, etc., par rapport à ce qu'on souhaite aussi. Hein. C'est pas, mais il faut nous, on s'était dessiné des choses pour avoir une idée de ce qu'on voulait et pour définir tout ce qu'on voulait. Une fois que les associations nous ont dit, on aimerait une salle pour ça, etc., on a essayé d'imaginer tout ça. Ça a été déterminé dans le cahier des charges. Les architectes, ils l'ont. Et là, tous les architectes qui vont répondre, ça va être votre rôle de dire, celui-là, finalement, ça convient pas. Et puis surtout, avec l'aide de l'agence du CAUE, qui eux ont bien l'habitude, et puis d'autres comment ils appellent ça,
le CAUE, l'association des architectes.
L'association des architectes.
Du jury,
pas de la commission technique. Donc, oui, mais il y a l'agence d'ingénierie dans la commission technique, qui eux ont aussi la fibre.
Il fait une guidance, il m'avait bien écouté.
Sur Raymond ?
La construction.
Une guidance pour. Ils ont l'habitude, parce qu'ils l'avaient répété.
C'est ça.
On travaille avec eux. Pas pour rien.
C'est mieux qu'ils aient l'habitude.
Comment ?
C'est mieux qu'ils aient l'habitude.
Oui, c'est mieux qu'ils aient l'habitude. Enfin voilà, donc c'est un beau projet. Je pense qu'il est nécessaire parce que pour l'école déjà il y a aussi pas mal, parce que là on parle du bâtiment multimodal, mais il y a aussi toute la rénovation de l'école et puis le réagencement de la partie cantine hein, qui là cette année je crois que les chiffres déjà pour la cantine sont déjà bien. Tout à l'heure, tu feras un petit point sur cette rentrée, mais il y a déjà aussi pas mal de monde. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de travail à faire à ce niveau-là, au niveau de l'école. Et puis, avoir un bâtiment multimodal qui réponde aussi une salle des fêtes avec une cuisine qui soit pérenne, des nouvelles... Des salles, oui, qui soient fonctionnelles. Et puis, moins consommatrice d'énergie aussi, hein, puisqu'il n'y a pas spécialement d'isolation dans cette salle et que c'est aussi en termes de consommation de fluide assez important à gérer chaque année.
Il y a la partie du bâtiment qui va être accolée à la cour d'école, où tu auras le préau qui sera au niveau de la cour, plus une grande salle de sport de toute hauteur. Ça va être, c'est compris dans le. Ça, c'est obligatoire, ça.
Ouais.
Où t'as une grande salle, le préau, la grande salle, le trotteur, où on va faire du pain du sport, et donc ce sera la semaine pour les gamins, ils peuvent y aller, puis après, il est ouvert à tout le monde.
En dehors des
soirs. Après, le soir pour les associations.
À l'intérieur, l'autre partie sera défaite, et l'autre niveau, après, ça sera débattre, mais le truc qui n'est pas à débattre, c'est, pour l'instant, c'est le préau. Et le gymnase qui sera accolé à l'école, à la cour d'école, pour avoir des subventions d'ailleurs de l'éducation nationale.
Gymnase, salle multisport. Hein, parce
ouais,
que
pas gymnase. Gymnase.
C'est un bien grand mot à notre niveau. Donc, puisqu'en fait, au niveau, on est aussi contraint par rapport à l'espace, hein, et on ne va pas non plus faire quelque chose d'énorme. C'est la même surface qu'ici. Hein, donc voilà, en incluant tout dedans. tout en un, en fait, de pouvoir mêler les usages, autant aussi bien pour les enfants quand ils ont besoin qu'après pour les associations et puis pour pratiquer du sport autrement que sur un carrelage, comme c'est le cas pour l'instant, et puis des jeux de ballon pour les enfants dans une salle qui soit un peu plus haute et qui leur permette de pratiquer des activités sportives à l'intérieur, quoi, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Voilà ce qu'on peut dire sur ce bâtiment multimodal. Est-ce que vous avez d'autres questions ? On peut peut-être revenir à la délib. Mettre à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Adopté. Je vous remercie. Ensuite, nous passons au règlement de voirie. Vincent, tu nous en dis peut-être un petit mot ?
Non,
ou Jean-Marc ?
Oui, le règlement de voirie, c'est avec la communauté de communes. On va essayer de faire un règlement, enfin, dit de voirie, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va faire un trou, une tranchée, c'est très technique, hein, de toute façon. Pour bien qu'elle soit bien rebouchée, on n'est pas tous dans la technique de rebouchage de tranchées, bien compactée, tout ça, de ne pas laisser les tranchées ouvertes trop longtemps. Si tu n'as pas de réglementation, les entrepreneurs ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors après, si tu as une réglementation, après ils sont obligés de la suivre, cette réglementation. Après, il y a aussi, pour si tu veux faire une isolation par l'extérieur, tu vas forcément mordre sur le trottoir. Alors bon, s'il fait moins d'1m40, tu ne peux pas faire comme tu veux. Enfin, il y a tout un tas de règlements qui, normalement, devraient être communs à toute la communauté de communes. Il peut y avoir des trucs supplémentaires suivant où tu es situé. Quand tu vas à Bénaud, enfin, ils n'ont pas le bordure du Rhône, ils n'ont pas les... c'est une adaptation pour chaque village. Mais on a un tronc commun, et c'est pour ça qu'on fait une réglementation pour pas... Parce qu'on ne peut pas gueuler quand si c'est mal rebouché, comme la rue de l'église, c'était mal rebouché et tout ça. Tu ne peux pas respecter parce qu'il n'y avait pas de réglementation pour... voilà. C'est... En gros...
Oui, c'est ça. En fait, ça nous garantit du fait qu'on a un règlement de voirie, eh bien, toutes les entreprises qui font des trous, elles savent qu'on a ce règlement, puisqu'on les notifie quand on leur donne la possibilité... de le faire, et donc c'est des contraintes pour dire il faut telle couche de sable, telle couche de gravier, etc. Et si on voit que ça fait sous poids, et qu'on peut faire constater que ça n'a pas été bien
respecté,
bien fait, et si on n'a pas ce règlement, et ben on n'a pas notre mot à dire et on ne peut rien faire. Donc la CMP, en fait, c'est à l'initiative de la commune de Miribel, mais ça sera quelque chose qui sera pour toutes les communes de la CCMP pareil, pour avoir un seul et même règlement pour pouvoir donc faire des travaux sur nos voies départementales ou communales. Voilà.
Et donc on participe au total 1271
euros. C'est ça. En fait, c'est réparti donc en fonction du nombre de linéaires de voirie. Donc pour nous, ça
fait. On paye les thunes, on ne fait pas le règlement.
Oui, c'est le règlement.
On paye 1200, il y en a qui payent 5000.
Oui.
Oui, en fait,
il y a un devis global qui a été fait et après la répartition se fait entre
communes. Au rata.
Le mec linéaire de voirie.
Oui, parce que nous.
D'intérêt communal.
Parce que là, c'est les voiries communales uniquement. Hein, donc c'est 4284 mètres linéaires pour nous. Donc c'est un pourcentage par rapport. Mais bien évidemment, hein, des communes comme Miribel, eux, ils ont 44 000 mètres de linéaire. Hein, donc ça leur coûte évidemment plus cher, mais c'est proportionnel. Et la CCMP, elle a les voiries d'intérêt communautaire, qui sont les voiries qui sont sur les zones d'activité.
C'est la VIC.
Dans la VIC, c'est ça, travaux d'intérêt communautaire. Et eux, c'est 14 822 mètres, et donc c'est proportionnel. Et donc l'utile, c'est 1271,79 €. Voilà, donc c'est une manière d'avoir un poids pour faire face à tous les concessionnaires en cas de travaux non
conformes. Les travaux, suivant le type de travaux qu'ils font, ça définit la largeur d'une tranchée pour mettre un câble électrique, par exemple, pour mettre de l'assainissement, tout est défini en fait.
Oui, c'est très technique. Hein. Il y a sur la réglementation, il y a la largeur, la profondeur. Bon, mais il faut.
La largeur du trottoir.
Ouais.
S'ils font une tranchée sur un trottoir qui fait 1m50, ils ne doivent pas dépasser plus de 30 cm de largeur, etc. C'est défini.
C'est ce énorme.
qui n'existe pas dans le monde actuel.
C'est plutôt une bonne chose. Ok. Il y a d'autres questions? Bien, eh bien, je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a de contre? Des abstentions? Adopté. Merci. Pour une fois, je vais donner la parole à Sandra qui va nous expliquer les deux déclarations suivantes concernant tout d'abord la protection sociale complémentaire pour le personnel.
Donc il y a un décret qui est parti, le décret numéro 2022-581 du 20 avril 2022, donc relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et la participation obligatoire des collectivités territoriales. Donc en fait, c'est pour s'aligner sur le privé. Donc les employeurs doivent, à compter du 1er janvier 2025, participer au contrat de prévoyance, donc avec un minima de participation de 20%, donc soit un minimum de 7 euros par mois par agent. Le contrat de prévoyance, en fait, c'est quand un agent, au bout de 90 jours, il passe à demi-traitement. Donc d'avoir ce contrat de prévoyance, ça lui permet d'avoir sa garantie de salaire à 100%, de pallier à la baisse au bout de 90 jours. Après, c'est une adhésion volontaire, on ne peut pas obliger l'agent d'adhérer. Deuxième obligation, celle-ci, elle est au 1er janvier 2026, donc c'est de participer à la mutuelle, en fait, au contrat santé, avec un minimum de 50% et le montant de référence étant fixé à 30 euros, ça représente 15 euros par mois par agent. Nous, on a confié la gestion au centre de gestion pour retenir les prestataires retenus, donc qui a passé un marché public pour le compte de toutes les communes. Donc pour la prévoyance, c'est Territoria Mutuelle qui a été retenue et pour la complémentaire santé, c'est Tapicil. Pour chaque prestation, l'agent peut choisir entre trois formules. C'est évidemment, comme je disais, une adhésion volontaire. Donc si l'agent refuse ou ne souhaite pas adhérer, il n'a pas le droit à la participation de la collectivité territoriale. À la demande des élus, il y a un sondage qui a été effectué auprès des agents pour connaître leur avis sur ces deux prestations. Donc pour la prévoyance, 7 agents sur 14 sont intéressés et la complémentaire santé, 3 agents sur 14. Donc ça s'explique par le fait que la plupart sont avec leur conjoint et ne souhaitent pas changer parce qu'elle est déjà assez avantageuse. Donc ça explique le faible...
C'est mutuelle familiale.
Donc, voilà. Les montants de référence sont des montants donnés, mais évidemment la collectivité peut donner plus si elle le souhaite. Madame le maire suggérait de donner un peu plus que l'obligation, donc soit 15 euros pour la prévoyance et 20 euros pour la complémentaire santé. Il y a une demande qui a été faite auprès du comité social territorial placé auprès du centre de gestion pour qu'il puisse émettre un avis sur cette proposition. Donc elle a été saisie le 25 juillet 2024 et a émis un avis favorable le lendemain, le 25 juillet, et on l'a reçu le 19 août. Je crois que j'ai tout dit. La dernière chose, c'est que nous, on prévoit d'adhérer à ces deux prestations au 1er janvier 2025. Parce qu'il y en a une, c'est au 1er janvier 2025 et l'autre au 1er janvier 2026, la complémentaire santé. Et on propose d'adhérer pour les deux directement au 1er janvier 2025. Donc, il vous est demandé d'adhérer à Territoria Mutuelle à partir du 1er janvier 2025 pour la prévoyance. De fixer le taux de participation à hauteur de 15 euros par agent et par mois. D'adhérer également à la complémentaire santé qui est Tapicil à compter du 1er janvier 2025 et de fixer le taux de la participation financière de la collectivité à hauteur de 20 euros. Il est bien précisé que si l'agent ne veut pas adhérer à ces deux prestataires retenus, il n'a pas le droit à l'aide de la commune. Voilà.
prévoyance mutuelle, donc on adhère à partir du 1er janvier 2025
pour les deux. 2025, oui.
C'est plus simple.
Donc puis, 15 euros pour la prévoyance, alors que le décret oblige, le minimum c'est 7 euros, et 20 euros pour la mutuelle complémentaire santé, alors que le minimum est de 15 euros.
Mais la mutuelle, donc ça concerne trois agents qui seraient intéressés,
ouais.
Et la prévoyance 7.
7, oui. Ouais.
Alors c'est vrai que souvent quand les gens sont sur la mutuelle du coup, mais ça n'empêche pas d'avoir le double.
Oui, mais moi, en plus, et ça n'empêche pas qu'ils voilà, peuvent quitter et mettre, ça peut être familial, hein, c'est-à-dire ouais. Qu'on peut mettre nos enfants, on peut mettre le conjoint.
C'est quand même...
Voilà. Mais la plupart, quand on a sondé, souhaitent rester dans leur mutuelle actuelle. Donc il n'y aurait que trois agents qui toucheraient les 20 euros, les autres non, si elles restent dans leur mutuelle actuelle. Donc, pour toucher l'aide, il y a l'obligation d'adhérer aux deux prestataires retenus par le centre de gestion. Sans ça, il n'y a pas l'aide.
Les montants, ils peuvent être rediscutés ou pas ?
Oui, après, si les agents demandent que ce soit réévalué auprès des élus, oui. Et après, ça repasse à nouveau devant le comité social territorial.
Et c'est uniquement à la demande des agents ?
Non, ça peut être à la demande des élus qui disent on réévalue... Et ça repasse devant le... Voilà. Alors, en général, évidemment, le comité social territorial, si c'est revu à la hausse, ils vont émettre un avis favorable. Mm-hmm. Et si c'est revu à la baisse, ils vont émettre un avis défavorable. Oui,
Là, les montants, ils sont très bien par rapport au nombre d'agents qui décident d'adhérer.
En fait, c'est un petit peu ce qui a été fait, d'où le sondage qui a été demandé, c'est que le montant a été déterminé par rapport aux agents intéressés.
Sauf que de façon pérenne, si on a 14 agents qui décide d'adhérer, et ça on peut complètement l'entendre, ouais. Ça va quand même changer vraiment le montant par rapport le montant des charges par rapport à la commune.
C'est pour ça qu'avant
oui.
De
faire un rétropédalage, ça peut être compliqué.
Et le rétropédalage peut être compliqué, c'est ouais. Juste oui. Ça. Après, c'est sur le principe humain et social, il n'y a pas de souci. C'est juste cette question-là que je me pose.
C'est clair, mais c'est vrai qu'aussi on n'a pas non plus, dans notre commune, des avantages... très important pour les agents. Toutes les autres communes autour...
Ouais, 14.
Même si on en a 14 qui adhèrent, ça ne va pas non plus faire des sommes folles. Hein. Ça fera plus, c'est clair. On est aussi quelquefois quand on recrute du personnel et on le voit notamment au service technique combien c'est difficile et même pour le périsco et nous on n'a pas ni des salaires ni des avantages très intéressants. On n'a pas des tickets restaurants, on n'a pas des choses qui dans les autres communes peuvent être beaucoup plus attractifs quoi, en fait. Et donc, c'est aussi un moyen de fidéliser nos agents. C'est aussi cette possibilité-là. Maintenant...
Le sondage a été effectué quand même avant.
Oui, et on a voulu faire le sondage avant, par rapport à notre personnel actuel. Donc, bien sûr que ça peut changer. Hein, ils peuvent tous changer d'avis. Mais Sandra...
La délibération peut être vue à tout moment. Hein, il n'y a aucun souci.
Oui. Après, si on a un avis défavorable du centre...
C'est un avis, donc on peut aller contre l'avis.
C'est aussi difficile de faire du rétropédalage dans ce sens-là, quoi. Faut en être
clair. Et la part des agents municipaux, c'est combien ?
Tout dépend de la formule qu'ils choisissent.
Oui, parce qu'il y a plusieurs formules dans chaque...
C'est comme votre propre mutuelle, il y a une formule 1, formule 2, formule 3. Plus vous payez, plus vous avez des remboursements. Mais en moyenne... Pour la complémentaire santé, une personne pour la première formule, on est à 41 euros par mois, la formule 2, 61,59 € et la formule 3, 81,39 € pour une seule personne.
Entre l'un et la 3, c'est le double.
Voilà. Mais évidemment, plus vous payez, plus vous avez des garanties. C'est comme à tout le monde à titre personnel. Mais après, voilà, vous pouvez faire la formule duo ou la formule famille. En fait, quelle que soit la formule choisie par l'agent, la collectivité ne verse que 20 euros.
Même si c'est pas un pourcentage.
C'est pas 80 balles, ça vaut plus de 60 balles.
Voilà, c'est ça.
Et mais c'est quelque chose qui est obligatoire. C'est, voilà, alors, on n'est pas obligé de donner autant, mais tu connais le...
Voilà, légalement. Mais du coup, la personne peut intégrer mieux, son conjoint et ses enfants.
C'est tant mieux.
Et elle s'adresse au titulaire, mais aussi au contractuel. Parce qu'on a des agents contractuels.
Oui, c'est son conjoint, il n'y a pas une...
C'est pas il paiera plus cher. Par exemple, pour un duo, deux adultes ou une famille, par exemple, plus de deux personnes, on est à 103 euros pour la première formule, 144 euros pour la deuxième formule et 184 euros pour la troisième formule.
Ah oui, il y a les enfants. Okay.
Voilà, ouais. Ça veut dire qu'il y a plus de deux personnes, conjoints, ouais, plus enfants. Mais la... qui choisissent la formule 1, 2 ou 3 et avec enfant, sans enfant, l'agent n'aura que 20 euros.
Voilà, on aura toujours la même chose.
C'est ça.
Et donc, pour les contractuels, ça s'arrête à la fin du contrat?
Oui.
La prise en charge?
Oui. Oui, oui.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, nous allons passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adoptées. Je vous remercie. Je te laisse la parole.
Je fais la suivante.
Oui.
Donc, la suivante concerne toujours le personnel et la modification du tableau des emplois. Comme vous le savez, à la rentrée de septembre, à l'école, il y aura l'ouverture du centre de loisirs le mercredi. Et certains agents vont voir leurs horaires modifiés puisqu'ils souhaitent travailler dorénavant le mercredi. Donc j'ai mis
là
à
aussi
jour...
Là aussi, on a fait un sondage pour les personnes qui étaient intéressées de travailler...
Donc en fait, on a la liste des emplois permanents. Donc là, ça n'a pas changé. Donc il y a deux postes au secrétariat. Alors, à titre d'information, je vous ai mis dans la dernière colonne de droite quelle est la personne sur le poste. Donc on est deux, il y a Mélodie et moi-même au secrétariat. Il y a le responsable du pôle technique donc, qui était Hervé, donc là le poste est vacant. Et on a deux adjoints responsables techniques actuellement, donc Fabrice Huon et Frédéric Poincinon. Ensuite c'est les emplois permanents mais à temps non complet du fait qu'ils sont annualisés vu qu'ils travaillent sur 36 semaines sur le temps scolaire. Donc on a le directeur périscolaire Selim Bendoula. Donc la semaine, pendant la période scolaire, il fait 35 heures, mais annualisé sur l'année, ça revient à 27h44. On a les deux ATSEM, Barbara et Fabienne, donc 31h et 27h33. Ensuite, Sarah Galetti, donc c'est une petite jeune qu'on a recrutée l'année dernière qui a donné totale satisfaction. Donc on reprend, elle est contractuelle. Donc elle est sur le temps juste du service du midi, donc de 11h50 et 14h. Donc elle est à la surveillance cantine et à l'animation.
C'est quelqu'un qui travaille déjà
En Montluel. Elle est salariée à la SREN, à l'association de gym, la SREN de Montluel. Donc elle cherchait un complément parce qu'elle n'était pas à temps plein. Et elle a vu l'annonce sur le panneau d'affichage, parce que ses grands-parents sont de Thiel.
C'est ça, c'est son panneau lumineux qu'elle a vu.
C'est son panneau lumineux.
Parce qu'elle venait manger chez ses grands-parents.
Elle vient, voilà.
Pour la petite histoire.
Donc, c'est un peu une jeune du village. Et donc, elle repart avec nous pour la prochaine année scolaire, donc sur le temps méridien. On a Isabelle Melendez, pareil, qui est vraiment que sur le temps du midi. Donc, qui, elle, était un agent titulaire qui a fait valoir ses droits à la retraite, mais qui souhaitait continuer. Donc, on la garde en tant que contractuelle sur le temps du midi. Angèle Coq qui est sur le donc à 13h58 sur le temps périscolaire du midi et du soir de 16h30 à 18h30. Alors Cathy Mendes, c'est là où ça change énormément ses horaires parce que c'est une agent qui va seconder Selim, donc qui va être la directrice adjointe du pôle enfance et qui va faire tous les mercredis, donc 10 heures de plus le mercredi. Donc là, elle était, je crois, à 15 ou 20 heures. Elle passe à 30 heures.
Parce qu'elle fait le matin.
Elle fait le matin, le midi et le soir. Et donc là, elle rajoute donc, tous les mercredis de 8h à 18h. On a Reine-Claude, enfin, qui est à la cantine, qui là, elle reste à la cantine, qui est plus dans le service de la cantine. Plus le ménage de la cantine. Et elle fait le lundi ou le mardi au périscolaire.
une ou deux heures. Voilà, jeudi, vendredi, au périscolaire le soir. Véronique, qui elle fait pareil le service de la cantine et périscolaire le soir de 16h30 à 18h, plus de 4 heures de bibliothèque par semaine. Adjointe technique, enfin, c'est Marie-Christine Chausset, donc qui fait exclusivement du ménage. Donc elle fait le côté maternel, la classe des moyennes grandes sections, plus cette année la salle de motricité et la salle d'études qui devient une salle de classe. Donc ça, c'est la liste des agents, de tous les agents. Et on a également Angélique, mais qui n'apparaît pas dans le tableau parce qu'elle est en prestation de service, mais qui intervient aussi sur l'école. Donc ce nouveau tableau, il est à compter du 1er septembre 2024, puisqu'il est intégré dès la rentrée de septembre.
Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? Eh bien, si vous n'avez pas de questions, nous allons procéder au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Les abstentions adoptées, je vous remercie. SIOA, le retour. Le SIOA. Lors de la séance donc, du 30 mai, nous avions approuvé l'adhésion au groupement de commandes pour l'achat, l'installation, l'exploitation et la maintenance d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques par le biais donc, du SIOA avec la signature d'une convention. Le SIEA qui a souffert aussi un petit peu de problèmes de personnel dans son sein, il s'était un petit peu avancé sur ce dossier puisqu'en fait il n'avait pas la compétence pour entreprendre cette démarche. On ne dit pas, ce n'est pas drôle. Donc il y a eu un comité syndical qui s'est tenu en juin 2024. Qui a donc modifié les nouveaux statuts du syndicat pour leur permettre d'intervenir en tant que prestataire de service. Et donc, il nous est proposé ce soir eh bien, d'accepter la modification des statuts du SIEA, vu que nous avons déjà accepté. C'est un petit peu mettre la charrue avant les bœufs, mais sinon, c'était voilà, c'est des petites choses comme ça qui arrivent. Et en fait, donc, il est proposé ce soir donc, d'approuver dans leur intégralité les nouveaux statuts du syndicat qui leur permettent donc justement de pouvoir proposer un groupement de commandes pour l'achat, l'installation, l'exploitation et la maintenance d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Voilà, est-ce que vous avez des questions à part vos sourires? C'est bien. Je vais donc mettre cette délibération à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions adoptées ? Je vous remercie. Et dans la donc lignée, puisqu'il faut aussi qu'il fasse un schéma directeur donc des infrastructures de recharge électrique. Alors, on est toujours dans la même phase, hein. On ne commande rien pour l'instant au SIEA, à part le fait de, par cette délibération, d'approuver le fait qu'il fasse un schéma donc directeur de toutes les infrastructures de recharge électrique. Donc c'est au niveau du département, hein, le SIEA, hein, pour cette prestation. Et donc, pour pouvoir approuver cette prestation, il faut accepter aussi de rétribuer le SIEA pour l'élaboration de ce schéma pour un montant forfaitaire donc de 45 euros. Voilà la délibération qui vous est proposée ce soir. Alors, je rappelle encore une fois que ces deux délibérations ne valent pas le fait que l'on dise au SIEA d'installer une borne de recharge électrique sur notre commune. On n'en est encore pas là. Là, c'est la validation du schéma directeur des infrastructures de recharge électrique, le fameux SDIRV. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, hein ? S'il n'y a pas de questions, je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie pour le SIEA. Délibération suivante, c'est la constitution d'une CLECT. Là aussi, qu'est-ce qu'une CLECT ? Une CLECT, c'est une commission qui va évaluer les charges transférées.
Pour exemple, donc ça c'est au niveau de la communauté de communes et c'est un petit peu comme la CAO, hein, c'est quelque chose au niveau de la CCMP qu'on n'a pas encore réuni, que l'on va réunir. On a la liste des, on avait quelque part la liste des. Comment ? Non, pas la liste des personnes, mais la liste de la commission locale, est-ce qu'elle va évaluer les charges sur le gymnase national, sur le chemin des mallettes, sur le théâtre Allegro, etc. C'est marqué quelque part. Ça doit être dans la délibération pour donner des exemples. En fait, une CLECT, c'est une commission qui se réunit au niveau de la communauté de communes. C'est deux agents, deux élus par commune et qui va évaluer un transfert de charges. C'est-à-dire que, par exemple, le gymnase La Chanale, il va être rétrocédé à la communauté de communes, mais là, on va évaluer les frais inhérents à ça qui vont être facturés à Miribel. Pour pouvoir réunir cette commission et évaluer les charges inhérentes à la récupération de ce bâtiment, eh bien, il faut constituer une commission. Et cette commission ne s'est pour l'instant donc jamais réunie à la communauté de communes. C'est pourquoi nous, nous avions constitué cette CLECT au début du mandat et que c'est toujours, donc pour l'instant, moi-même et puis Olivier Rouvière qui en sommes les représentants. Donc je rappelle, hein, deux représentants par commune qui ne sont pas obligatoirement le maire d'ailleurs, mais pour TIL, c'est ce qui avait été proposé. Et donc, il vous est proposé ce soir, en lieu et place donc, d'Olivier Rouvière, de nommer Vincent Traclet pour intégrer cette commission qui va se réunir, je crois, le 10 septembre prochain. Oui, puisque...
C'était mieux avant.
C'était mieux.
Il n'y avait pas de réunion, c'est mieux.
Bah, en fait, il n'y avait pas de réunion parce qu'il n'y avait pas eu le besoin d'en faire. Mais il y a plusieurs dossiers qui viennent sur, qui arrivent maintenant à échéance, hein, qui demandent un transfert. Et en fait, si nous, par exemple, on veut donner quelque chose à la communauté de communes, on ne peut pas le donner comme ça. Il y a une évaluation. Si le lieu ou la route est en mauvais état, eh bien, la commune concernée va devoir payer pour pouvoir transférer à la communauté de communes le bien, en quelque sorte. Et en fait, cette CLECT, elle va se réunir pour définir par lieu et ou par bâtiment. Donc, ça va, je crois qu'il y a plusieurs... bon sang, je l'ai lu quelque part, mais... Il y a le gymnase La Chanale, il y a le théâtre Allegro, il y a une voirie au niveau de Bénaud, je ne sais plus laquelle. Enfin, il y a plusieurs sujets qui vont donc faire l'objet donc, de cette commission, de cette évaluation. Et en fait, donc, cette délibération est pour acter le fait que ce soit Vincent et moi-même qui puissions siéger dès le 10 septembre à la Comcom. Dans les nouveaux locaux.
Comme que toutes les années, l'impôt qu'on donne, enfin l'impôt, la participation à la Comcom, a priori, ils nous redistribuent le.
Ah non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est vraiment des infrastructures, que ce soit des routes ou des bâtiments, qui appartiennent pour l'instant à une commune et qui sont rétrocédés parce que ça devient la compétence de la communauté de communes à la communauté de communes. Et pour ce faire, il faut évaluer. Le montant des charges de ce transfert. Donc généralement, c'est la commune qui doit, sauf si par exemple on donnait une route toute neuve, à ce moment-là c'est l'inverse, puisque la communauté de communes n'aurait pas à l'entretenir pendant tant de temps, mais si une commune donne par exemple cette salle des fêtes à la communauté de communes, la commune va devoir payer parce qu'il y a tout à refaire, etc., etc. quoi, hein. Donc, ça va faire l'objet de cette CLECT. Ça s'appelle la CLECT, commission locale d'évaluation des charges.
Il y a quelqu'un qui les évalue. On va donner ça à la compétence.
Alors, je pense que c'est les services techniques de la communauté de communes, en accord avec les communes, hein, qui ont dû faire certainement une évaluation. En fait, comme on n'en a jamais fait, ouais. Je ne peux pas te dire comment ça se passe. Je te le dirai après.
Sur le bâtiment, tu sais ton coût de chauffage, ton coût.
Ils doivent tout calculer. Mais le coût de fonctionnement, ça c'est facile à voir. Tu as des factures, tout ça.
Oui, mais il y a
un. Faire une route ou faire un truc.
Il y a un beaucoup de, comment dire, non seulement les frais de fonctionnement, mais je pense qu'on peut estimer la valeur d'un bien, en fait, quelque part. Par rapport à son, à sa vétusté, si vraiment le bâtiment il est très vétuste et que c'est un gouffre, etc., ben là c'est la commune qui va devoir mettre la main à la poche pour dire ben voilà, je vous le confie contre bon soin, mais à condition de. Donc voilà.
Comme la Chanal, c'est la communauté de communes ou c'est Miribel qui l'a construit?
Alors, à l'époque, comment
tu parles du premier.
Le tout neuf, il a été construit par la communauté de communes. Donc, c'est pas celui-là qui est concerné. C'est l'ancien.
Qui va être démoli, certainement. Enfin, oui. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire, mais...
Je sais pas.
C'est l'ancien. L'ancien, il était municipal. L'ancien gymnase de la Chanal était municipal. Et c'est celui-là qui va être rétrocédé à la communauté de communes.
Je t'en dirai plus après. Après la clecte.
Le 11 septembre,
c'est ça. Voilà, est-ce qu'il y a donc d'autres questions concernant la constitution de cette clecte? S'il n'y a pas d'autres questions, je soumets à votre vote. S'il y a des votes contre, les abstentions adoptées, je vous remercie. Questions diverses. Moi, je sais que j'avais... des petites choses à vous dire, mais on va peut-être commencer par un tour de table. Damaris, est-ce que rien de particulier? Non. Angélique? Non. Babette, tu nous fais un petit point sur l'école, oui, avec Angélique, toutes les deux.
Voilà, Céline m'a fait passer donc les derniers effectifs, donc tout le monde sait que la directive s'est changée. Donc, et qu'on a obtenu une ouverture de classe.
Il y a eu 5 dans le département. Hein.
Voilà. Le journal, c'est le journal du 10 juillet, ou je ne sais plus quand, enfin, qui l'annonçait. Hein. Donc, du coup, tant mieux pour les Tilois. C'est une très bonne nouvelle. Donc, là, les effectifs sont montés à 145 élèves. La répartition qui a été faite laisse la maternelle un peu chargée volontairement pour arrêter... les cours doubles entre les grands écarts en primaire, genre CE1, CM2, comme l'année dernière. Donc, petite section, moyenne section, 29 élèves dans les deux cas. Le CP est pur. Du coup, il n'y a que le CP au lieu que ce soit un cours double, ce qui est très bien, à 20 élèves. Le CE1 est à 21 élèves. C'est aussi un cours pur, donc qui est pas mal. Et la nouvelle personne donc, qui aura la 6e classe est un CE2 CM1 à 21 élèves. Et la directrice, Madame Combe, garde, elle voulait de toute façon avoir les CM2, donc elle garde le CM1 CM2, 25 élèves. Voilà. Pour ce qui est de nous du périscolaire, donc moyenne le matin de 15 enfants, le soir de 45. On est donc bien dans nos chiffres. Hein, voilà. L'aperçu pour la cantine... déjà entre 103 et 120 enfants prévus. Donc, forcément, hein, ça... Voilà. Et quant au centre de loisirs du mercredi, alors que les plannings ne sont pas encore diffusés, pour l'instant, on est sur les 3-5 ans, 11, 10, 10, 11, voilà, première semaine. Ouais. Et puis deuxième, les 6, 10 ans, pardon. Plutôt autour de 19, 14, 16, 14, enfin en tout, ça fait un total de 30, 24, 26, 25. Donc on est bien aussi, là, dans les prévisions. Ça va être fréquenté. Voilà.
Le planning n'a pas été diffusé.
Voilà.
Il va y avoir des initiations à la pêche, j'ai entendu dire.
Il y a un joli programme et je pense que ça va bien marcher. Donc du coup, on est bien déjà dans le. Dans les chiffres prévisionnels avancés, donc il y aura de la clientèle, c'est pas... voilà.
Oui, parce que de toute façon, on n'a pas une capacité non plus... je crois qu'on a une 40...
C'est 40 enfants, ouais. Par mercredi.
Je crois qu'on a entre 30 et 32 enfants.
Voilà, donc pour l'instant, on tient bien le choc. Alors, au niveau des locaux, la nouvelle classe primaire, c'est... pardon...
À la place de l'ABCD.
Voilà, ce deuxième sera donc à la place de l'ABCD, donc on va les aménager.
Oui, je tiens à dire quand même que normalement, on sait une ouverture de classe en début d'année, hein, parce qu'on demande les chiffres au directeur, etc. Et que nous, c'est au dernier conseil d'école, c'est-à-dire au conseil d'école du mois de juin, où on nous a dit...
Il y aura sans doute.
Il y aura sans doute. Donc c'était un peu chaud, parce que, voilà, c'est... Mais bon... Pour le bien-être des enfants, finalement, je pense que c'est ça qui prime, aussi surtout avoir un CP où il y a 20 enfants qui vont être que CP.
Oui, parce qu'ils apprennent.
Je pense que ça va leur donner une possibilité d'apprentissage super.
Oui.
Et comment ?
Certains endroits, ils sont dédoublés, ils sont 15.
Oui, mais ça, c'est. Ouais, enfin, mais 20, c'est.
Même Forestier, ouais.
Même Forestier, ouais.
C'est quand même beaucoup plus confortable. Et... Il y a longtemps qu'il n'y a pas eu des.
Pour Madame Forestier aussi.
Longtemps qu'on n'a pas eu des chiffres comme ça. Et donc, en plus, ça a été, donc on l'a vu dans le journal au mois de juillet, parce qu'il a fallu attendre les élections, c'est-à-dire le 8 juillet, pour qu'on en ait la confirmation. Avant les élections, ça a été tout arrêté et tout bloqué. Et donc, il a fallu attendre que les élections soient terminées pour qu'on en ait la confirmation. Donc, c'est demain, en fait, que l'on procède à l'installation.
À l'installation, réaménagement.
Mais il n'est encore pas là. Oui, il n'est pas encore là.
Ah ben, on ne connaît pas l'identité.
C'est pour ça que là, je n'ai pas le nom encore, de l'enseignante par rapport aux...
Et on ne sait pas si l'enseignant le sait, d'ailleurs.
Ouais. Alors, on sait qu'il y a quelqu'un, puisque pour qu'il y ait ouverture d'école, il faut qu'il y ait poste nominal créé par la DAZN, enfin la Direction de l'Éducation nationale. Donc, on sait que forcément, le poste, il est numériquement prévu avec une nomination. Ce qu'on n'a pas, c'est l'identité encore. Voilà. Mais on en saura peut-être plus demain auprès de la directrice.
Et les profs qui sont restés, c'est qui ?
Eh bien, c'est toujours les mêmes. Madame Sétier, pour la petite section, par contre, je n'ai pas redonné les noms, excusez-moi, mais bon, petite et moyenne section, Madame Sétier, Madame Croix, moyenne, grande section, Madame Forestier au CP, Madame Lectinet au CE1, Madame ou Monsieur... CE2, CM1, Madame Combe, CM1, CM2, c'est une directrice qui arrive de la Boisse, qui était une école de 10 classes, donc quelqu'un qui a de la bouteille du métier et
qui est chez.
Au début de sa carrière, elle revient quelqu'un qui a de l'expérience et qui prend en main les choses avec beaucoup de dynamisme, je trouve, et de.
Tu l'as rencontrée ?
Ah bah oui,
elle est au conseil d'école.
Je l'ai vue cette semaine et puis je l'avais vue en juillet. Et puis
elle est au conseil d'école.
Elle est au conseil d'école.
Oui.
Oui, c'est ça. C'est ce que je veux dire.
Ouais, fastoche.
Merci, Valérie. C'est de rien.
Il y a eu des travaux dans l'école pendant ces vacances. On a changé une chaudière qui n'a pas attendu qu'on le change, parce qu'elle était morte, donc 2028, c'est un peu trop loin. Jérôme Caravesa l'a changé, et il a mis même une régulation pour le chauffage au sol d'un côté maternel et d'un côté salle de motricité. Il a terminé les travaux. Il n'a plus qu'à brancher la prise. Enfin, il a fait des essais déjà. Il n'a plus qu'à brancher une prise. Le petit souci, c'est qu'il a fait ce qu'on appelle un désembouage des circuits de radiateur. Et ça fait apparaître des fissures dans les radiateurs. Parce que la boue, elle joue le rôle de
colmater.
Mais après, quand tu l'enlèves, deux radiateurs qui ont rendu l'âme. Donc, il a envoyé un devis tout à l'heure. Il m'a dit qu'il avait envoyé. Moi,
oui, il y en avait
qu'un, il y a un deuxième maintenant.
D'accord.
Alors, c'est de l'ordre de 400 balles. C'est
un truc, ça coûte 4 millions, mais tu dis à force de regarder le truc.
Voilà, et puis autrement, tous les travaux qu'on voulait faire, on attendra quand on fera la salle multimodale, parce qu'il reste quand même des luminaires à changer. Certaines fenêtres qu'on voulait, tout ce qui était en périphérie en périphérie, ils n'ont pas été changés, dans les couloirs, tout ça, ils n'ont pas été changés, parce qu'on attend de voir
Bah oui, l'aménagement.
L'aménagement, après, s'il y en a des subventions complémentaires.
Oui, c'est pas la peine de faire des pré-travaux pour en refaire derrière si c'était pas voilà, dans les clous de.
Donc, on avait fait les deux tiers pour les luminaires changés en LED, on les a changé les deux tiers. La plupart, de toute façon, les salles de classe en elles-mêmes ne vont pas changer. Il y a que dans les puits de lumière qu'on n'a pas fait parce que, comme c'est des gouffres à kilowattheure, on ne savait pas si on allait boucher, comment faire. Voilà. Bon, pour tout ce qui est travaux, c'est il n'y a plus de choses à dire.
Merci Jean-Marc. Delphine ?
Non,
RS. Moi, j'avais des petites choses à rajouter en disant que c'était la société JLC Propreté qui reprend la suite de Netra pour l'entretien des bâtiments, mairies, écoles et salles des fêtes à partir de la semaine prochaine. Enfin, on va dire. Alors, c'est sûr qu'il y a un surcoût, hein, mais pendant 3 ans, là, ça a vraiment été très compliqué. Donc, tant mieux. J'en ai parlé tout à l'heure au quart d'heure citoyen, donc l'installation donc, du food truck, hein, sur, vous l'avez peut-être déjà, je crois, testé, oui, sur le parking du cimetière, donc depuis lundi dernier, présent les lundis, mercredis, jeudi, samedi, le midi et le soir. Propose des sandwichs, hot dogs et des plats du jour. Vous dire également que pendant le mois d'août, j'ai reçu l'EPF, l'établissement public foncier, pour la parcelle de terrain située à côté de chez nous, la parcelle Wolf, pour ne pas le cacher, puisque en fait, maintenant que Madame Wolf est décédée, donc les enfants souhaitent procéder à la vente. Donc il y a eu une estimation qui a été faite par les domaines et donc une lettre d'intention qui a été faite auprès de l'EPF pour dire que pour les mandater en quelque sorte pour pouvoir faire une visite des lieux et faire une proposition à la famille en vue du rachat de la parcelle hein, qui jouxte l'école et qui revient devant via la maison. Voilà, l'ouverture de classe, on en a parlé. La réunion des associations, je voulais avoir la confirmation que c'était bien le 7 octobre à 19h. Non, à 20h30. C'était un lundi.
Ok.
On avait.
Ouais.
Mais on avait fixé dans le bureau, on a fixé la date et c'était pour pouvoir le rappeler. Donc si on le fait ici dans la petite salle de réunion.
Oui, c'est sûr.
Ça va ?
Donc, à quelle heure ? 20h30.
Le 7 octobre, 20h30. Oui, c'est pas 19h. Parce que les assos, ça ne va pas. La récupération d'archives, tu peux peut-être expliquer ?
Actuellement, donc, on a l'archiviste du centre de gestion qui est en train de classer toutes nos archives. Il y en avait vraiment besoin.
Et ça n'a pas été fait depuis 2014, hein, donc voilà. Il y en avait vraiment beaucoup.
Donc c'est une intervention de 46 jours de mémoire, donc il a déjà fait une première tranche et là il est revenu depuis hier pour finir la seconde tranche.
Et puis il faut dire aussi qu'il a joué le jeu cet hiver puisque nous avions besoin in extremis d'un Père Noël et que...
En plus d'être archiviste,
nous l'avons habillé. Et c'est lui qui a accueilli les enfants dans la salle des fêtes.
Il revient pour Noël cette année ou
pas ? Non, la salle mission sera terminée.
Il sera plus là.
Il est revenu à partir d'hier. Et il s'est rendu compte que donc il y a toujours des archives de la commune aux archives départementales de l'Ain. Donc il suggérait qu'on les récupère pour que tout soit classé au même endroit, donc notamment au-dessus de la mairie. Puisqu'il y a 8 mètres linéaires et c'est des documents qui ont plus de 100 ans. Donc il nous faut pour ça demander l'autorisation de les récupérer, donc autoriser Valérie à récupérer ses archives pour qu'il puisse les trier. Parce que si on ne les récupère pas, elle reste aux archives départementales et il ne pourra pas les trier et les classer.
J'en avais déjà récupéré, mais apparemment... Voilà.
Donc là, il a eu confirmation, il y a 8 mètres linéaires à récupérer aux archives départementales.
Il faudra faire une délibération.
Voilà, donc il faut
normalement,
l'autorisation.
Oui.
Normalement,
oui.
Il faut l'autorisation.
Ça rentre encore.
Ah bah certainement. Hein,
il va faire du tri, donc normalement.
Non, puis il y a peut-être des parties en pointillé qui manquent, qui sont là-bas, qui ne sont pas là. Enfin, je veux dire que du coup, ça peut compléter des.
Comme ça, on aura trop
de dossiers historiques.
Comment ?
Demander un peu de
Oui, mais un vote, c'est informel, là. Le vote, on est dans les questions diverses. Donc, il faudra mieux refaire une délibération. Hein.
Parce qu'ils ne savaient pas si le formalisme, un simple courrier suffisait ou si...
Ou s'il fallait une délibération. Donc, on risque de vous soumettre une prochaine délibération, mais ça, on n'en est pas sûr. Et c'était tout. Vincent ?
Dans les travaux au chemin de la Brayonne, mais on en a parlé tout à l'heure.
Le 13 septembre aussi également, je vais chez le notaire pour récupérer le petit bout de terrain devant le lotissement Les Tuileries. Donc ça y est, ça passe chez le notaire. Et puis également un petit bout de terrain...
qui était devant le lotissement des Îlets.
Qui était devant le lotissement des Îlets. C'est pareil, c'est une rétrocession des copropriétaires comme le lotissement des Tuileries. Et ça, c'est le 13 septembre. Donc on pourra arborer.
Aménager et arborer
devant
le lotissement.
Mais pour l'instant, on n'est encore pas chez nous.
Par contre, on l'entretient quand même.
Oui. Et pour dire aussi cette année qu'on a eu beaucoup de signalements d'ambroisie, Frédéric, il a passé beaucoup de temps, puisqu'en fait, on reçoit les signalements par la plateforme. Et donc, j'ai écrit à certains agriculteurs qui ne sont pas de la commune pour qu'ils fassent leur parcelle. Mais nous, on en a eu aussi beaucoup, hein, au City, aux Tuileries, justement, à plein d'endroits. Parce qu'avec la météo qu'on a eue, ça a bien poussé aussi. Héro.
Moi, j'ai juste une petite question. Oui. Est-ce qu'il y a un cadre légal par rapport aux éventuelles campagnes de démoustication ?
Alors, non. On s'est fait manger, là, tout à l'heure, avant...
Ouais,
non.
D'accord.
Nous, okay. On adhère au
SDEI.
C'est le, oui, je crois que c'est le SDEI, donc on adhère. C'est eux qui passent dans le village pour repérer les endroits où il pourrait y avoir de l'eau, des coupelles, des choses comme ça. Je sais qu'on paye toutes les années ce service, mais il n'y a plus maintenant de... Non, c'est pas SDEI.
C'est
SEI.
Avant, il y avait des campagnes massives.
Mais
c'est fini, ça.
Sans parler de campagnes massives, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait et si c'est pas le cas, est-ce qu'il y a un cadre légal pour peut-être envisager autre chose?
Pas à ma connaissance.
Pas pour cet été, hein. Bien d'accord.
Nous, je sais. Alors, j'arrive pas à trouver l'organisme
auquel.
Qu'est-ce
qu'il faut faire.
Oui, mais souvent les gens refusent de les faire rentrer.
EID.
Voilà, c'est EID.
Moi, je les avais fait rentrer, mais ils donnaient deux trois conseils, mais bon.
Mais les conseils, on sait tous ce que c'est.
Maintenant, oui.
C'est l'EID Rhône-Alpes, c'est l'établissement public qui a pour principale mission de lutter contre la prolifération des espèces de moustiques. Et on peut faire des signalements. Donc il y a une plateforme, hein, là aussi, un peu comme l'ambroisie, où tu signales, etc. Alors leur action, la lutte... Ils font des campagnes, hein, de démoustication. Ils en font.
Ah, ils en font.
Ouais. Ils en font.
C'est à la demande de...
ils développent des techniques de lutte contre la prolifération des espèces dans les zones naturelles, dans les zones urbaines, la démoustication consiste d'une part à réaliser des actions de prévention au domicile des particuliers dans les jardins collectifs et d'autre part effectuer des traitements antilarvaires sur le domaine public. Donc après, on peut demander un diagnostic, parce que je sais qu'on paye, hein, chaque année, on paye au moins 3000 euros. Hein, on paye,
peut-être que ça peut être quelque chose qu'on pourrait envisager pour l'année prochaine. Enfin, parce que quand même, quand on parle un peu dans le village, c'est une vraie problématique cette année, quoi. Mmh. Et qui s'amplifie d'année en année. Hein.
C'est clair. Donc, c'est clair. Je te dis, là, avant que vous arriviez.
Ah oui, oui.
C'est bien fait des
Mais voilà, si on leur signale pas, ils ne peuvent pas savoir qu'a-t-il.
C'est pour ça que c'est.
Mais normalement, du fait qu'on cotise, ils viennent quand même toutes les années, puisqu'ils nous envoient.
Je ne les ai pas vus cette année.
Mais je ne les ai pas vus
cette année. D'habitude, ils ne payent pas, c'est le moment de. Ils viennent en tant que conseiller.
Écoute, on va prendre contact. On va prendre contact avec eux et voir ce qu'ils peuvent faire. Hein, s'ils peuvent faire des traitements, pourquoi pas. Ok. On a... Merci, Véro. Eh bien, je vais donc clore ce conseil municipal. Fin de la séance en salle polyvalente le mercredi 28 août à 21h53. Stoppez l'enregistrement.